16. Pellerate dévisagea Trévise et parut se ratatiner. Le long rectangle de son visage devint si livide que, sans trahir la moindre émotion, il exprimait un malaise manifeste. Puis son regard se mit à divaguer de droite, de gauche. Trévise se rappela ce qu'il avait éprouvé lors de son premier voyage au-delà de l'atmosphère. Il dit, sur le ton le plus neutre possible, « Janoff ». Et c'était la première fois qu'il s'adressait familièrement au professeur, mais en l'espèce, c'était l'homme d'expérience qui s'adressait au Béotien, et il était nécessaire qu'il parût l'aîné des deux. « Nous sommes en parfaite sécurité ici. Nous nous trouvons à l'intérieur de l'enceinte métallique d'un vaisseau de guerre de la marine de la Fondation. Nous ne sommes peut-être pas armés, mais il n'est pas un endroit dans la galaxie où le simple nom de la Fondation ne nous protégera. Même si d'aventure quelque astronef devenait assez fou pour nous attaquer, nous pourrions être hors d'atteinte en un instant. Et je vous assure que j'ai découvert comment manipuler cet engin à la perfection.
C'est juste l'idée, Golan, de ce néant.
Eh bien, il y a du néant tout autour de Terminus aussi. Seule une fine pellicule d'atmosphère extrêmement ténue nous sépare du néant qui la surmonte. Tout ce que nous faisons, c'est franchir cette pellicule sans importance.
Sans importance, peut-être, mais c'est quand même ça qu'on respire.
On respire tout aussi bien ici. Et l'atmosphère de ce vaisseau est incontestablement plus propre et plus pure, et restera indéfiniment plus propre et plus pure que l'atmosphère naturelle de Terminus.
Et les météorites?
Quoi, les météorites?
L'atmosphère nous protège des météorites? Des radiations aussi, tant qu'on y est?
L'humanité, observa Trévise, voyage dans l'espace depuis, je crois, 20 millénaires.
22.
Si nous nous référons à la chronologie albrochienne, il est tout à fait patent que, si l'on tient du moins compte de...
Ça suffit.
Avez-vous déjà entendu parler de collision avec des météorites ou de mort par irradiation, récemment, j'entends? Et dans le cas de vaisseaux appartenant à la Fondation?
Je n'ai pas vraiment suivi l'actualité en ce domaine, mais je suis un historien, mon garçon, et
historiquement, oui. On peut relever de tels accidents, mais la technique progresse. Aucune météorite assez volumineuse pour nous endommager ne pourrait nous approcher sans que la parade ne soit immédiatement opérée. On peut certes concevoir que 4 météorites provenant simultanément des 4 directions définies par les sommets d'un tétraèdre puissent nous percuter. Mais calculez la probabilité d'un tel événement et vous verrez que vous aurez le temps de mourir de vieillesse plusieurs milliards de fois avant d'avoir 1 chance sur 2 d'observer un aussi passionnant phénomène.
Vous voulez dire si vous étiez derrière la console?
Non, dit Trévise, bourru. Si je pilotais l'ordinateur en me fiant à mes propres sens et à mes réflexes, nous serions percutés avant même que je sache de quoi il retourne. C'est l'ordinateur même qui est ici à l'œuvre et régit des 1 000 000 de fois plus vite que vous et moi nous pourrions le faire. Il tendit brusquement la main.
Janoff, laissez-moi vous présenter ce dont l'ordinateur est capable et vous montrer à quoi ressemble l'espace.
Pellerate le contempla, légèrement ébahi. Puis il eut un petit rire.
Je ne suis pas sûr d'avoir envie de le savoir, Golan.
Bien sûr que non, Janoff. Parce que vous ignorez encore ce que vous manquez. Prenez le risque. Allons, venez.
Dans ma cabine.
Trévise tendit l'autre main et, mi-conduisant, mi-tirant, l'emmena jusqu'à l'ordinateur. Tout en s'asseyant devant le bureau, il lui demanda « Avez-vous déjà vu la galaxie, Janoff? L'avez-vous déjà regardée ?»«
Vous voulez dire dans le ciel ?»«
Oui, sans doute. Où voulez-vous que ce soit ?»
Je l'ai vu, tout le monde l'a vu. Il n'y a qu'à lever les yeux pour la voir.
L'avez-vous déjà contemplé par une nuit sombre et limpide, lorsque le losange est sous l'horizon? Ce nom de losange
se rapportait à ces quelques étoiles assez lumineuses et suffisamment proches pour briller d'un éclat modéré dans le ciel nocturne de Terminus. C'était un petit groupe qui ne s'étendait pas sur plus de 20 degrés et demeurait la plus grande partie de la nuit au-dessous de l'horizon. En dehors de cette constellation, on ne pouvait distinguer qu'un vague semis de pâles étoiles tout juste visibles à l'œil nu. Et sinon, la vague traînée laiteuse de la galaxie, une vue à laquelle on pouvait s'attendre quand on vivait sur un monde comme Terminus, situé à l'extrême limite du bras le plus extérieur de la spirale galactique.
« Je suppose que oui, » répondit Pellorat. « Mais pourquoi la contempler? C'est un spectacle bien banal. »
« Bien sûr qu'il est banal. C'est bien pourquoi plus personne ne la voit. Pourquoi la regarder quand on peut toujours la voir sous les yeux? Mais à présent, vous allez la voir vraiment. Et pas comme de la surface de Terminus, où la brume et les nuages interfèrent perpétuellement. Vous allez la voir comme jamais vous ne pourriez le faire depuis Terminus, quels que soient vos efforts et quelle que soit la limpidité ou l'obscurité de la nuit. Ah, comme j'aimerais moi aussi n'être jamais allé dans l'espace pour pouvoir, tout comme vous, la découvrir pour la première fois dans sa beauté toute nue. Il poussa une chaise vers Pellorat. Asseyez-vous là, Janov. Cela peut prendre un certain temps. Il faut que je continue de m'accoutumer à cet ordinateur. De ce que j'ai déjà pu en ressentir, je sais que la vision est holographique, si bien que nul écran ne nous sera nécessaire. L'appareil établit un contact direct avec mon cerveau, mais je pense pouvoir lui faire générer une image objective que vous puissiez observer vous aussi. Éteignez la lumière, voulez-vous? Non, suis-je bête? Je vais le faire à l'ordinateur. Restez où vous êtes. Trévise établit le contact avec l'ordinateur, contact des paumes, étroit et chaleureux. La lumière décrut, puis s'éteignit tout à fait. Et dans l'obscurité, Trévise sentit Pellorat s'agiter. « Ne soyez pas nerveux, Janov. Il se peut que j'aie quelques difficultés à tenter de commander l'ordinateur, mais je vais commencer en douceur, et il faudra être patient avec moi. Est-ce que vous le voyez ? Le croissant. Le croissant était suspendu dans l'obscurité devant eux, pâle et tremblotant d'abord, mais devenant plus vif et plus net. Pellorat demanda d'une voix timide et respectueuse. « Est-ce là Terminus ? En sommes-nous si loin ?»«
Oui. »
Le vaisseau progresse rapidement. Le vaisseau traversait le cône d'ombre de Terminus qui leur apparaissait comme un épais croissant de lumière vive. Trévise éprouva l'envie soudaine de faire décrire au vaisseau un grand arc qui les aurait ramenés vers la face éclairée de la planète pour qu'ils la contemplent dans toute sa beauté. Mais il se retint. Pellorat y trouverait peut-être l'attrait de la nouveauté, mais il s'agissait d'une beauté domestiquée. Il y avait bien trop de photographies, bien trop de map-monde, bien trop de globes. N'importe quel écolier savait à quoi ressemblait Terminus, une planète océanique, plus que la moyenne, riche en eau et pauvre en minerais, tournée vers l'agriculture et manquant d'industries lourdes, mais la première de la galaxie pour les techniques de pointe et la miniaturisation. S'il avait pu faire travailler l'ordinateur en micro-ondes afin d'établir un modèle visible, ils auraient pu discerner chacune des 10 000 îles habitées de Terminus, en même temps que la seule d'entre elles assez vaste pour être considérée comme un continent, celle où se trouvait Terminusville. Et bascule. Ce n'avait été qu'une pensée, un simple exercice de la volonté. Mais la vue changea aussitôt. Le croissant de lumière s'éloigna vers le bord de leur champ de vision tout en basculant sur le côté. Les ténèbres de l'espace emplirent ses yeux. Pellorat s'éclaircit la voix. « J'aimerais mieux que vous rameniez Terminus, mon garçon. J'ai comme l'impression d'être devenu aveugle. » Il avait un ton légèrement crispé. « Vous n'êtes pas aveugle. Regardez. » Dans son champ de vision, apparut une pellicule brumeuse, pâle et translucide. Elle s'étendit, devint plus lumineuse,
jusqu'à gagner toute la cabine qui parut scintiller.
Réduction.
Nouvel effort de volonté, et la galaxie s'éloigna comme si elle était vue par le mauvais bout d'une lunette de plus en plus puissante, se contracta pour ne plus devenir qu'une simple structure marquée de zones plus ou moins lumineuses.
Plus clair,
la luminosité de la structure s'accrut sans changement de dimension, et, comme le système stellaire de Terminus était situé légèrement au-dessus du plan galactique, la galaxie n'apparaissait pas exactement vue par la tranche. Elle affectait la forme d'une double spirale très aplatie, barrée de raies sombres, obscurcissant la face lumineuse du côté de Terminus. Très loin, rétréci encore par la distance, le noyau galactique brillant d'une lueur laiteuse paraissait bien insignifiant.
Pellorat dit, en un murmure respectueux,
« Vous avez raison. Je ne l'ai jamais vu ainsi. Je n'avais jamais imaginé qu'elle eût autant de détails.
Comment auriez-vous pu? Vous ne pouvez distinguer la moitié extérieure lorsque l'atmosphère de Terminus s'interpose entre elle et vous. Le noyau est à peine visible depuis la surface de la planète.
Quel dommage de l'avoir avec si peu de recul.
Pas besoin de recul. L'ordinateur peut très bien la visualiser sous n'importe quelle orientation. Je n'ai qu'à en exprimer le vœu, et même pas à haute voix.
Changement de coordonnées.
Cet exercice mental n'avait rien d'un ordre précis. Pourtant, à mesure que l'image de l'ordinateur commençait à subir un lent changement, son esprit guidait la machine et la faisait obéir à sa volonté. Lentement, la galaxie tourna pour apparaître vue perpendiculairement au plan galactique. Elle s'étendait peu à peu, tel un gigantesque tourbillon lumineux, avec ses sillons obscurs, ses nœuds étincelants, et au centre, une masse éclatante indistincte.
« Mais comment ?» demanda Pellorat. « L'ordinateur peut-il donc la visualiser depuis un point de l'espace situé à plus de 50 000 parsecs de l'endroit où nous sommes ?»
Puis il ajouta, en étouffant un soupir,
« Pardonnez-moi, je vous en prie, je n'y connais vraiment rien. »
« Je n'en sais guère plus que vous en la matière, » confia Trévise. Même le plus simple des ordinateurs toutefois est capable d'opérer un changement de coordonnées pour visualiser la galaxie sous n'importe quel angle, en partant de ce qu'il va considérer comme la position de référence, à savoir celle visible depuis l'endroit de l'espace où il se trouve. Bien entendu, l'ordinateur ne peut exploiter au début que les informations qu'il peut appréhender, si bien que, dans le cas d'une vue panoramique, nous aurons des lacunes et des zones de flou. Dans le cas présent, toutefois,
oui,
nous nous trouvons avec une vue excellente.
Je me demande si ses mémoires n'ont pas été chargées avec une carte complète de la galaxie, ce qui lui permet de la visualiser sous n'importe quel angle sans le moindre problème.
Comment ça? Une carte complète?
Les coordonnées spatiales de chaque étoile de la galaxie doivent être stockées dans ses mémoires.
De chaque étoile?
Pellorat semblait interloqué. Eh bien, peut-être pas de chacune des 300 milliards d'étoiles du système. Son programme devrait très certainement inclure les étoiles des systèmes habités, et sans doute toutes celles de la classe K et au-dessus, ce qui en fait déjà bien 75 milliards au bas mot.
Toutes les étoiles des systèmes habités?
Je ne voudrais pas dire de bêtises. Peut-être pas toutes. Après tout, il y avait bien 25 millions de systèmes habités du temps de Harry Seldon, ce qui peut paraître énorme, mais ne représente jamais qu'une étoile sur 12 000. Là-dessus, au cours des 5 siècles suivants, l'effondrement général de l'Empire n'a pas empêché la poursuite de la colonisation. J'aurais même tendance à penser qu'il l'a encouragée. Il existe encore quantité de planètes habitables où s'installer, et l'on doit bien arriver au chiffre de 30 millions maintenant. Il est fort possible que les plus récentes ne soient pas répertoriées par la Fondation.
Mais les plus anciennes, sans doute doivent-elles s'y trouver, sans exception.
Je l'imagine. Je ne puis le garantir, bien sûr, mais je serais surpris qu'il manque une seule des colonies établies de longue date. Laissez-moi vous montrer quelque chose, si mes aptitudes au maniement de l'ordinateur me le permettent.
Les mains de Trévise se crispèrent sous l'effort et parurent s'enfoncer encore, comme pour resserrer leur étreinte avec la machine. Il aurait pu s'éviter cette peine et se contenter de penser tranquillement « Terminus ». C'est ce qu'il fit, et en réponse apparut un diamant rouge étincelant à l'extrême lisière du tourbillon. « Voici notre soleil, » dit Trévise tout excité. « L'étoile autour de laquelle gravite Terminus. »
« Ah !»
s'exclama Pellerat avec un soupir chevrotant. Un point lumineux jaune vif apparut au milieu d'un amas serré d'étoiles en plein cœur de la galaxie, quoique franchement excentrique par rapport au noyau central, plus proche du côté où se trouvait Terminus. « Et ça, » poursuivit Trévise, « c'est le soleil de Trentor. »
Nouveau soupir de Pellerat. Oh, « Vous êtes certain ? »
On dit toujours que Trentor est située au centre de la galaxie. C'est vrai dans un sens. Elle est située aussi près du centre que peut l'être une planète tout en demeurant habitable. D'ailleurs, elle en est plus proche que n'importe quel autre système habité important. Le centre de la galaxie proprement dit consiste en un trou noir d'une masse de près d'un million d'étoiles. Autant dire que l'endroit n'est pas de tout repos. Pour autant que l'on sache, il n'y a pas de vie au centre même, et peut-être qu'il ne peut tout simplement pas y en avoir. Trentor est situé dans l'anneau le plus intérieur de l'un des bras de la spirale, et croyez-moi, si vous pouviez contempler son ciel nocturne, vous vous croiriez en plein cœur de la galaxie. Elle se trouve au beau milieu d'un amas stellaire particulièrement riche.
« Êtes-vous déjà allé sur Trentor, Golan ?»
demanda Pellerat manifestement avec envie. « En fait, non. Mais j'ai vu des représentations holographiques de son ciel. » Trévise contempla la galaxie d'un air sombre. Lors de la grande période de recherche de la Seconde Fondation à l'époque du Mulet, comme les gens avaient pu jouer avec les cartes galactiques, et combien de volumes avaient été écrits et filmés sur le sujet. Et tout cela parce que Harry Seldon avait d'abord dit que la Seconde Fondation serait établie à l'autre bout de la galaxie, en un lieu qu'il avait baptisé Finistel, là où finissent toutes les étoiles. À l'autre extrémité de la galaxie. À l'instant même où Trévise formulait cette pensée, un mince trait bleu apparut, partant de Terminus, traversant le trou noir du centre galactique pour joindre l'autre côté de la spirale. Trévise en manqua sursauter. Il n'avait pas directement commandé ce tracé, mais il avait toutefois fort clairement imaginé. Et il n'en fallait pas plus pour l'ordinateur. Mais bien entendu, le chemin en ligne droite jusqu'au bord opposé de la galaxie n'était pas forcément l'indication de cet autre bout dont avait parlé Seldon. C'était Arcadie Darrell qui, si l'on pouvait se fier à son autobiographie, avait employé la phrase « Un cercle n'a pas de bout » pour souligner ce que chacun de nos jours acceptait comme évident. Et bien que Trévise eût essayé soudain d'oblitérer cette pensée, l'ordinateur le prit de vitesse. Le trait bleu s'évanouit, pour être remplacé par un cercle englobant la galaxie et tangent au point rouge marquant le soleil de Terminus. Un cercle n'a pas de bout, et il suffisait de placer son origine à Terminus pour qu'en cherchant son autre extrémité, on se retrouve tout bonnement à son point de départ. Et c'était effectivement à Terminus qu'on avait découvert la seconde fondation, occupant la même planète que la première. Mais si, en réalité, on ne l'avait pas vraiment trouvé, si cette prétendue découverte n'avait été qu'une illusion. Alors, en dehors de la ligne droite et du cercle, quelle autre représentation adopter? Pellerat remarqua, « Vous jouez à l'illusionniste? Pourquoi diantre ce cercle bleu? »
C'était juste pour faire des essais.
Vous aimeriez qu'on essaie de localiser la Terre ? Un ange passa, puis Pellerat dit
« Vous plaisantez ?»«
Du tout.
Je vais essayer. » Il essaya. Rien ne se passa.
Désolé.
« Elle n'est pas là ? Il n'y a pas de Terre ?»
Je suppose que j'ai du mal formuler mon ordre, quoique ça ne me semble guère crédible. Je crois plutôt que la Terre n'est tout simplement pas répertoriée dans les données de l'ordinateur. elle y est peut-être inscrite sous un autre nom ?
Trévise sauta sur cette possibilité. Lequel, Janov ?
Pellerat ne dit rien, et dans l'obscurité, Trévise ne put retenir un sourire. Il se pouvait bien que les choses commencent à se mettre en place. Il n'y avait qu'à laisser courir un peu, laisser mûrir la situation. Il changea délibérément de sujet et dit « Je me demande si on peut manipuler le temps. »
« Le temps ?
Comment ça ? »
La galaxie tourne sur elle-même. Il faut presque un demi-milliard d'années à Terminus pour accomplir une révolution complète. Les étoiles situées plus près du centre accomplissent leur périple beaucoup plus vite, bien entendu. Le mouvement de chaque étoile, fonction de sa distance du trou noir central, pourrait être enregistré en mémoire, auquel cas l'ordinateur aurait la possibilité, en accélérant des millions de fois chaque mouvement, de rendre visible l'effet de rotation.
Je vais essayer pour voir. Il fit comme il avait dit, sans pouvoir s'empêcher de bander tous ses muscles sous l'intense effort de concentration. Comme s'il avait dû s'emparer lui-même de la galaxie pour la faire accélérer, la tordre, la mouvoir contre une terrible force d'inertie. La galaxie bougeait. Lentement, puissamment, elle se mit à s'enrouler sur elle-même, tendant à resserrer les bras de sa spirale. Le temps s'écoulait sous leurs yeux à une vitesse incroyable. Un temps fabriqué, artificiel. Et à mesure qu'il passait, les étoiles semblaient devenir évanescentes. Ça et là, certaines parmi les plus grandes rougissaient, devenaient plus brillantes en se transformant en géantes rouges. Et puis, une étoile de l'amas central explosa soudain sans bruit, dans une lueur aveuglante qui, l'espace d'une fraction de seconde, fit pâlir l'ensemble de la galaxie avant de disparaître. Puis une autre à son tour dans l'un des bras. Et puis, une autre encore pas très loin.
« Des supernovae », expliqua Trévise, frémissant un brin.
Était-il possible que l'ordinateur pût prédire l'explosion d'une étoile et l'instant de cette explosion ? Ou bien n'utilisait-il qu'un modèle simplifié, destiné à présenter l'avenir stellaire dans ses grandes lignes, et non pas avec précision?
Pellerat murmura d'une voix rauque. On dirait un être vivant en train de ramper à travers l'espace.
C'est vrai, dit Trévise. Mais moi, je commence à fatiguer. En attendant que j'y arrive sans avoir besoin de me crisper, je ne vais pas pouvoir prolonger ce petit jeu très longtemps.
Il se laissa aller. La galaxie ralentit, puis s'immobilisa, puis bascula pour se retrouver de profil tel qu'ils avaient pu l'avoir au départ.
Trévise ferma les yeux et respira profondément. Il avait conscience de l'éloignement de Terminus derrière eux, de la disparition des dernières traces d'atmosphère raréfiée, de la présence de tous les vaisseaux occupant les parages de Terminus. Il ne lui vint pas à l'idée toutefois de vérifier si l'un de ces vaisseaux avait quelque chose de particulier. N'y avait-il pas un autre vaisseau gravitique dont la trajectoire suivait la leur avec plus de précision que ne l'autorisait le hasard ?